C'est le bélier va avoir trois conséquences immédiates qu'on va appeler au point de vue catéchisme pour les enfants. La faute, la peine et la satisfaction de la peine. Tous les enfants du catéchisme à 15 ans devaient savoir ça par cœur, sinon ils s'étaient renvoyés au catéchisme et ils redoublaient leur catéchisme. Alors, il fallait leur poser la question à ce moment-là, qu'est-ce que la faute par rapport à la peine, qu'est-ce que la peine par rapport à la satisfaction de la peine. Alors, ils devaient répondre juste, sinon ils n'avaient pas la moyenne. Très bien, alors donc vous voyez, c'est élémentaire, il faut savoir ces choses-là. Donc à chaque fois que vous commettez un péché, à chaque fois que nous commettons un péché, notre âme est littéralement tachée, une espèce de trou énorme dans notre âme, qui s'est fait. La dernière fois que j'ai fait du catéchisme aux enfants, je leur ai expliqué, c'est comme si vous faisiez un trou et que vous mettez du ciment prompt avec un immense anneau. Vous sceliez sur votre âme. De manière qu'à partir de ce moment-là, tous les démons peuvent s'accrocher à l'anneau, vous venez où vous voulez. C'est ça, vous ne pouvez pas le déraciner, c'est absolument impossible. C'est ce qu'on appelle la peine d'âme. Vous êtes damné. Damnation. Parce que votre tâche est fichue. Vous ne pouvez pas. C'est indélébile et vous ne pouvez pas rentrer au ciel avec ça, c'est impossible. Les portes du ciel sont fermées définitivement pour vous. Deuxième conséquence, vous avez ce qui correspond à la peine. Et la peine, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous aurez plus de peine, plus de difficultés, moins d'élan pour aimer Jésus, pour aimer Dieu, pour obéir, pour adorer, pour faire... Donc, autrement dit, vous aurez pris un pli, vous aurez pris une habitus, comment dire, une habitude intime, à la fois psychologique, physique et spirituelle, qui vous aura mis dans un pli, et au lieu que vous êtes finalisé, vous avez dévié de la trajectoire, et vous savez très bien que la moindre déviation dans la trajectoire fait que, au terme, vous n'atteignez absolument pas le but, même si c'est un milliardième de millimètre de déviation. Donc c'est terrible, terrible. On ne peut jamais dévier du but. Et c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est que nous sommes responsables comme Adam. À chaque fois que nous sommes un homme ou une femme, nous avons la responsabilité de toute la création, de tous les hommes qui font leur petit pèlerinage terrestre, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les anges. Nous avons la responsabilité de tout le monde minéral, de tout le monde végétal et de tout le monde animal, de toutes les constellations cellulaires. Nous sommes le roi de l'univers. Chacun d'entre nous, du point de vue naturel, est le roi de l'univers. Il a une responsabilité absolue. Et à chaque fois qu'il pose un acte, ça a une relation physique sur le moindre partie de l'univers. Comme ça, vous voyez, il suffit qu'il y en ait un qui se lève, un seul se lève, et toute l'humanité se lève. On le voit assez facilement avec le pape, par exemple. Il suffit qu'il y en ait un qui se lève. Il ne faut même pas oublier que depuis que le pape s'est levé, on a évité à trois reprises la guerre mondiale. On ne savait peut-être pas ça, mais on verra ça si vous voulez, je vous en parlerai à Fatima. Les trois guerres mondiales évitées par le pape. Extraordinaire. Il suffit qu'il y en ait un qui se lève, et le monde entier se lève. Non, c'est bon. Et vous comprenez bien que c'est celui qu'il y en ait un qui chute et le monde entier chute. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire péché originel. Péché originel, c'est celui qu'il y en ait un qui chute, le monde entier chute. Et nous sommes des fils d'Adam. Donc à chaque fois que nous commettons une faute, un péché, la chute est absolue et universelle. Et donc, il y a une relation immédiate, directe et physique, pas seulement spirituelle, physique sur, morale, sur tout ce qui existe. Bon, alors, en raison de quoi Jésus est venu, il a sauvé le monde, il a repris absolument tout, et il a donné le pardon, la rémission, l'absolution de tous les péchés. Alors, vous voyez, les trois, absolutionem indulgentiam, rémissionem peccator fuit. Alors l'indulgence, vous voyez, est dedans, correspond aux trois. Vous allez voir le prêtre pour recevoir le sacrement de pénitence, pouvoir donné par Jésus à Saint-Pierre et à tous ceux à qui Pierre l'a remis, justement, à l'intérieur de la succession apostolique, en donnant ce pouvoir divin de pardonner les péchés, le sacrement de pénitence et l'absolution n'enlève pas du tout, comme on dit toujours, la peine du purgatoire, pas du tout. Le sacrement de pénitence ne remet que la peine d'âme, c'est-à-dire la tâche sur l'âme, c'est tout. L'absolution, parce que, vous savez, les enfants, en catéchisme, disent toujours, ah ben moi je m'en fiche, je peux faire ça et ça, et là j'ai confessé, terminé. J'ai résolu mon problème. Pénitence vous remet la deuxième partie, c'est-à-dire qui correspond au purgatoire, si vous voulez, enfin ce qui correspond à votre purgatoire personnel, à la partie personnelle de la purgation qui la reprise à faire, à proportion de la ferveur avec laquelle vous faites la pénitence. Comme pénitence, tu me feras cinq fois « Je vous salue Marie » et une fois « Notre Père ». Alors il y a la remise sacramentelle, puisque la pénitence est dans le sacrement, la remise sacramentelle de si vous y mettez toutes vos billes, tout est remis. D'accord? Vous comprenez ça? Troisièmement, l'indulgence. Troisièmement, c'est les conséquences dramatiques de ce que nous avons fait sur les parties périphériques de notre vie, notamment le point de vue psychologique, le point de vue... Et les parties aussi ad extra, l'extérieur de nous-mêmes, donc les relations avec ceux dont nous avons la responsabilité. Je ne sais pas, vous voyez, une maman qui a avorté, par exemple. Hein? C'est foutu. Comment réparer ça? Oui. Alors, vous avez l'indulgence. L'indulgence première, toutes les indulgences, du reste, ça c'est un pouvoir qui est remis à Saint-Pierre. Tout ce qui te dira sur la terre sera délié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et donc, le Saint-Père, l'Église, dit, ben voilà, Jésus est sauveur, Jésus est rédempteur, donc il remet... Jusque-là, le pardon de Jésus va jusque-là, il va, et le pouvoir qu'il a donné à l'église de Pierre, à l'église apostolique, va jusque-là, de pouvoir reprendre absolument toutes les conséquences du péché dans notre monde, dans notre cosmos, et les conséquences que ça a eu sur la psychologie de chacun de l'être vivant, poisson et autres, hein, les versos tous. Vous voyez, alors, pour, vous voyez, ça aussi c'est une pratique de la miséricorde, c'est une pratique de la charité par laquelle Dieu nous aime de manière tellement forte et donne ce pouvoir d'aimer à l'Église pour que nous puissions à notre tour aimer suffisamment notre prochain pour les renouveler dans la miséricorde que j'ai reçue pour moi-même, bien entendu. Donc vous voyez, j'ai reçu le pardon de Jésus, je vais faire en sorte que les conséquences de mon péché se répandre sur tous ceux que j'ai détruits et abîmés. Donc c'est la charité élémentaire, l'indulgence. C'est vraiment un sacrement de la miséricorde vu du côté de la charité. Alors, cinq conditions pour recevoir une indulgence. Il faut la prendre par cœur. Hein. C'est parti du catéchisme aussi. À 12 ans, je savais ça. Tous les enfants de catéchisme du village le savaient, le fils du paysan, le fils du maçon, tout par cœur. Donc, qu'est-ce qui peut me dire première condition pour recevoir l'indulgence plénière? Enfin, sauf ceux qui l'ont dit hier soir. Hein? Ah, il faut être confessé? Juste avant? dans la semaine. Pour avoir reçu le sacrement, justement. C'est lié au sacrement. C'est une suite du sacrement de pénitence. C'est lié au sacrement de pénitence. Donc, vous êtes confessé dans la semaine. Je vous signale que vous pouvez recevoir une indulgence plénière une fois par jour. Donc, si vous vous confessez tous les 15 jours, tous les jours de la semaine, vous verrez que vous êtes confessé dans la semaine. Donc, c'est seulement la première condition. Ça ne suffit pas. Deuxième condition. Ce jour-là, où vous voulez obtenir l'indulgence, vous, il faut avoir l'intention de gagner de l'indulgence, oui. Il faut avoir l'intention de la gagner, parce qu'on peut très bien faire ça, parce que c'est ma vie monastique, je suis bonne sœur à Boulogne, de toute façon je me confesse tous les 15 jours, de toute façon, tac, mais elle ne reçoit aucune indulgence plénière parce qu'elle n'a pas l'intention de la recevoir. Donc ça se demande. La troisième condition. Non. Troisième condition. C'est les conditions sine qua non, hein, d'abord. Il faut avoir communié ce jour-là. Il faut avoir communié ce jour-là. Parce que vraiment, tous les sacrements trouvent leur unité dans l'Eucharistie. Et le sacrement de pénitence, dans donc son développement, va trouver son unité dans l'Eucharistie. C'est normal. Il faut avoir communié ce jour-là. C'est le corps de Jésus qui récapitule tout le cosmos. Voyez, dans la gloire, dans sa résurrection, et il attend notre désir pour récapituler précisément tout ce qui a été abîmé dans sa gloire de résurrection, par sa gloire de résurrection, à travers justement cette communion, avec intention de gagner l'indulgence. Ensuite, prier pour le pape, mais c'est tout. T'as fait ton catéchisme de ça, toi?
Non, c'est quand t'as été à Pontmain, on a déjà eu un problème.
Ah, Pontmain, c'est à Rome.
À Pontmain, il l'avait trouvé.
À Pontmain, ouais, ah bah tu vois. Alors tu vois, bon, il faut prier pour le pape. Un petit mot pour prier pour le pape. Le pouvoir des clés a été remis à Saint-Pierre. Le pape, il a pas mal de chats à fouetter. Il est archi-pris. Il dort pas beaucoup. Il faut qu'il prépare tous ses discours. Il est génial, mais enfin... C'est pas de science spontanée quand même, ça se travaille. Bref, il n'a pas beaucoup de temps de prier. Et puis en plus, il a la charge et la responsabilité devant Dieu de tous les hommes. Et de toute l'Église. S'il y a une moindre glissade et qu'il ne dit pas le mot qu'il faut au moment où il faut, c'est lui devant Dieu qui en est responsable. C'est énorme. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je me rappelle que j'avais eu le pape Paul VI en 1975. Au même moment où Ephraim et sa communauté le voyaient avec la Vierge à côté de lui, quand ils traversaient la basilique Saint-Pierre, ce qui a provoqué leur conversion au catholicisme. Moi, je me rappelle, j'étais à 75 aussi, pareil, je n'étais pas à l'atelier de Judas. J'avais vu de manière assez nette aussi toute la croix de Jésus qui écrasait Paul VI. Et Jésus pleurait Paul VI, il pleurait. C'est la responsabilité du pape, c'est fou. Donc on prie au nom du pape. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de prier. On prie aux intentions du pape, au nom du pape, pour le pape. Vous voyez, quand on dit pour le pape, ça veut dire que je me mets dans la peau du pape. Je prends toute la responsabilité du pape sur mes épaules et je dis à notre Père, je vous salue Marie, et c'est moi le pape dans ce moment-là. Je prie pour lui. Je prie à sa place. Je suis transformé en pape. C'est extraordinaire. Eh oui, bien sûr. Parce que si tu comprends, l'indulgence plénière reprend strictement tout. Oui, c'est pour ça que. Hein, c'est pour ça que c'est le pape qui nous l'accorde, bien sûr. C'est parce que le pape nous l'accorde et que ça reprend absolument toutes les dimensions des conséquences du péché. Donc, il faut être lié au pape. Vous voyez ? Donc, il faut avoir dit une prière pour le pape dans la journée. Quatrième condition. Cinquième condition. Non, le credo n'est pas nécessaire. Bon, alors je vais vous le dire. Peut-être les théologiens, peut-être qui ont fait un peu de théologie, savent ça. Il faut au moins, un peu comme Claire avait fait, vous voyez, au moins quelques secondes. C'est très difficile à faire, même impossible, mais quelques secondes c'est possible. Renoncer à toute attache au péché. Renoncer à toute attache au péché. Et vous savez que le péché consiste à refuser l'amour du Christ dans toute sa dimension, donc l'amour de Christ jusqu'à la croix. Donc j'accepte de souffrir autant que Jésus a souffert. J'accepte d'aimer autant que Jésus a aimé. Ne serait-ce que quelques secondes. Je me détache de toutes mes inimitiés, de toutes mes rancœurs. Au contraire, je transforme en allégresse, l'allégresse de la croix, le Christ qui bondit sur les montagnes, qui saute sur les collines. C'est extraordinaire. Oui, je renonce que quelques secondes. C'est pas terrible. Pas 24 heures, 3 secondes. C'est bon. Ça s'appelle un acte d'adoration parfait, ça. Voilà les 5 conditions. Ce sont les 5 conditions. C'est le trépied sur lequel la table de l'indulgence plénière est dressée. Et le plateau de la table, c'est l'œuvre. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui va faire que ces 5 conditions vont s'actualiser et vont rendre efficace l'indulgence plénière. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, nous faisons le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ça va nous donner l'indulgence plénière si nous remplissons ces 5 conditions ce jour-là. Donc il faudra presque le rappeler, à la limite. Hein. Voilà, pour que tout le monde obtienne l'indulgence plénière. Bien sûr, quand c'est la fête de la Toussaint, dans la fête de la Toussaint, vous savez, 1er novembre, dans la semaine de la Toussaint, une heure, c'est tout simple, vous visitez le cimetière, vous jetez de l'eau bénite sur les tombes, indulgence plénière. Lorsque vous assistez à une ordination sacerdotale, indulgence plénière. Lorsque vous assistez à une première communion, indulgence plénière. Lorsque vous dites un chapelet des mystères glorieux, ensemble, à plusieurs, indulgence plénière. Si vous êtes tout seul, personne ne dit le chapelet avec vous, vous allez à l'église, vous vous mettez devant le tabernacle, et vous dites le chapelet des mystères glorieux, tout seul avec Jésus, indulgence plénière. Si vous mettez devant le Saint-Sacrement, exposé, plus d'une demi-heure, les yeux fixés sur Jésus, indulgence plénière. Alors vous l'obtenez d'abord pour vous, n'est-ce pas? Bien sûr. L'indulgence plénière fait que si vous l'obtenez et que vous passez de vie à trépas, vous traversez le purgatoire d'un seul coup. Le purgatoire ne dure pas. L'indulgence plénière dure jusqu'à l'instant, pour tous les péchés que vous avez commis, jusqu'au moment où vous dites « faites l'indulgence plénière ». Ah, après c'est foutu, après c'est pour recommencer à zéro. Bah, oui, mais enfin c'est déjà pas mal, hein. Non, parce que vous l'obtenez d'abord pour vous, hein. Et puis ensuite le lendemain, puisqu'on peut l'obtenir une fois par jour, vous l'obtenez pour des âmes du purgatoire. Parce que si vous, les âmes du purgatoire purgent, c'est sûr. Alors, en fait, vous priez, vous demandez, et puis vous donnez ça à l'Immaculée, et vous lui dites, voilà, à un moment, je t'aime bien, toi, je te donne une âme du purgatoire, en faisant l'indulgence plénière. Alors la Sainte Vierge va au purgatoire, et vous tire instantanément une âme du purgatoire. Indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est surtout pour les âmes du purgatoire. C'est d'abord pour nous, quand on fait un pèlerinage comme celui qu'on fait, c'est pour nous, comprenez bien. Mais après, dans la vie courante, quand vous obtenez l'indulgence plénière tous les jours, c'est à chaque fois une âme du purgatoire. Bien sûr, vous n'allez pas tout le temps. Alors, la charité la plus parfaite, c'est quand on aime son prochain, celui qui souffre le plus, et en même temps celui qui est le plus proche de Dieu. Les âmes du purgatoire sont celles qui souffrent le plus, de tous les êtres vivants qui existent, sur terre et au ciel et dans les enfers. Et celles qui sont plus proches de Dieu en même temps, parce qu'elles sont beaucoup plus proches que nous de Dieu. Du point de vue de l'amour, parce qu'ils ont vu Jésus, au jugement particulier. Et donc, la charité fraternelle la plus parfaite, c'est de délivrer les âmes du purgatoire. Il n'y a pas d'acte de charité fraternelle plus élevé que d'aider des âmes qui souffrent au purgatoire. C'est impossible de trouver un acte de charité plus parfait au point de vue fraternel. Il y a des actes de charité plus parfaits, mais c'est vis-à-vis de Dieu. C'est un acte de charité aussi d'aimer Dieu, vous voyez, ça c'est sûr. quand vous rentrez dans les demeures Saint-Thérèse d'Avila, par exemple, c'est des actes de charité parfaits vis-à-vis de Dieu. Des pauvres, vous en aurez toujours, avait dit Jésus. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus passe avant, hein, au point de vue de charité, c'est sûr. Jésus, c'est le pauvre, celui qui souffre le plus, celui qui est le plus proche de Dieu, c'est évident. C'est pour ça que dans le bon samaritain, hein, qui est mon prochain? Quand on pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Dans le samaritain, Jésus répond pas, c'est le pauvre mec qui est au bord du trottoir et qui a été massacré. Le prochain, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Le prochain qu'on doit aimer, hein. On doit aimer son prochain. Qui dois-je aimer? Tu dois aimer ton prochain. Qui est ton prochain? Jésus répond, parabole du samaritain. Alors il dit, alors c'est quoi le prochain alors? Qui était le prochain, celui qui a été attaqué? Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Tu l'as dit. Donc le prochain, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers nous. Celui qu'on doit aimer dans l'amour de charité. Et celui qui a fait preuve de plus de bonté envers nous, c'est Jésus. La charité, c'est d'abord Jésus.
C'est pas contradictoire avec la phrase aimer vos ennemis, ça.
Bah oui, mais aimer nos ennemis, bien sûr, c'est l'ennemi de notre... Nos ennemis, c'est toujours celui qui s'oppose à notre orgueil.
Ouais.
Et Jésus s'oppose à notre orgueil de la manière la plus violente qui soit. Et c'est sûr, c'est un voleur, il nous vole notre liberté. Il vient comme un mendiant et il nous vole nos désirs, notre ego. C'est le rapt. La jalousie d'amour de Jésus, c'est extraordinaire. Bon. Alors donc, vous voyez, indulgence plénière. Est-ce que vous avez bien compris ou avez quelque chose d'un petit peu confus?
Oui. Dis plus fort.
Ben, tu peux l'avoir tous les jours, parce que si tu te confesses tous les 15 jours, tu t'es confessé une fois par semaine. Si tu communies tous les jours... Non, la confession une fois tous les 15 jours. Non, il faut s'être confessé dans la semaine. Mais si tu te confesses tous les 15 jours... T'as qu'à compter, tu verras que tu t'es confessé dans la semaine. Bon, si tu pratiques la communion eucharistique quotidienne, si tu pries pour le pape tous les jours, si tu fais un acte d'adoration parfaite tous les jours, et si tu désires recevoir la vision plénière tous les jours, pas de problème. Et tu dis ton chapelet devant le Saint-Sacrement glorieux tous les jours, tu peux facilement recevoir l'indulgence plénière tous les jours, tu comprends? Alors pour le chapelet, oui, c'est le pape Paul VI qui a décidé qu'en effet, le fait de dire le mystère glorieux devant le tabernacle, ou alors à plusieurs, si on n'est pas devant le tabernacle, était par exemple une possibilité de recevoir. Autre manière de recevoir l'indulgence plénière totalement différente, c'est à chaque fois que vous faites un acte de charité parfait. Mais il faut qu'il soit parfait. Seulement, vous n'êtes jamais sûr, n'est-ce pas, de votre acte de charité parfait. Un acte d'amour de Dieu, vous mettez avec une intensité absolument fabuleuse. Hein. Je t'aime, Seigneur, c'est fou. Mais vous y mettez toutes vos vies. Pour ça, vous dites le chapelet avant, l'Eucharistie, tout ça, et puis, bon, c'est un acte de charité. Parfait. Seulement, vous n'êtes même pas sûr, c'est peut-être psychologique mon truc, votre suggestion. Personne ne peut savoir s'il a fait un acte de charité parfait. Et c'est justement là que Jésus a donné les sacrements à l'Église, et les sacramentaux, et les indulgences, et le pouvoir des clés, justement parce que pour compléter notre carence à faire des actes de charité parfaits. C'est sacramentel, vous voyez. Le sacrement, c'est sacramentel. Il opère la formule ex opere operato. Même si tu ne corresponds pas exactement à ce que tu vis sacramentellement, c'est efficace quand même. C'est pour ça, tu assistes à l'Eucharistie, tu dis moi, c'est l'Eucharistie, Jésus n'est pas là, enfin, j'y crois pas. Il dit, que tu crois ou tu crois pas, il est là quand même. Efficace quand même. Ça dépend pas de ta foi que cela. Enfin, moi, pour moi, Dieu, il n'existe pas. Dieu n'existe pas parce que j'y crois pas. Mais c'est pas parce que tu penses qu'il n'existe pas. Parce que tu vois, moi j'existe devant toi. Si tu me dis que j'existe pas,
m'en fous complètement, j'existe quand même. Alors l'intelligence plénière d'une femme qui a avorté, par exemple, eh ben, elle peut très bien obtenir l'absolution. Il n'y a que le pape qui peut pardonner un avortement. Hein. Un simple prêtre peut pas. Le pape ou un évêque. Hein. Ah oui. Un avortement, il y a que. C'est impossible. On est excommunié lorsqu'on a fait un avortement. Lorsqu'on a participé à un avortement, c'est l'excommunication. Donc on ne peut plus avoir accès aux sacrements. Et on peut être réintroduit dans les sacrements que par l'absolution donnée par un évêque. Ou alors par un prêtre que l'évêque a explicitement donné le pouvoir pour pardonner à sa place. Moi j'en ai pardonné, bien sûr, des avortements. Hein.
Ça va ?
Mais il a fallu que je téléphone à l'évêque.
Oui.
En disant le. Quelquefois il refuse. Si une femme vient me confesser, que se confesser à moi et me dit j'ai avorté, etc., je pose d'abord la question, est-ce que vous saviez que vous tombiez sous le coup de l'excommunication?
Ah, je ne savais pas du tout.
Ah, ben à ce moment-là, il n'y avait pas plein consentement ni pleine lucidité, donc elle ne tombe pas sous l'excommunication. Mais si elle recommence le sachant, elle est excommuniée. Donc si. Oui? Non, l'avortement ne provoque pas une infestation diabolique. C'est un péché. La possession diabolique, c'est un autre ordre totalement différent que le péché. Le péché, c'est personnel, c'est toi qui le fais. Tandis que la possession diabolique, c'est le démon qui s'empare de toi et qui profite d'une faiblesse pour s'introduire et te posséder et te faire agir contrairement à ton instinct normal, ta liberté, tu vois. Donc quelqu'un avorte, c'est son péché, c'est pas, il n'y a pas de démon. Il y a un péché, il y a une peine, il y a une tâche, tu vois, sur l'âme qui est terrible, tu vois. Bon, comment, il n'y a pas de possession diabolique là, hein. C'est fini, non. Oui, dis, pose ta question, oui.
Sur l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire.
Oui.
Est-ce qu'on peut nommer l'âme du purgatoire?
Ah, est-ce qu'on peut nommer? Par exemple, j'ai mon grand-père qui est mort il y a 18 ans, j'ai l'intuition qu'il est encore au purgatoire. Et. Ah, bah tu sais,
il
oui.
Il est
hein.
Encore au purgatoire.
Ah, bah dis donc.
C'est pas long.
Mais c'est très long.
Il n'y a pas de temps, en fait,
Si, au ciel, il n'y a plus de temps. Quand? Au purgatoire, on demeure justement au purgatoire, on demeure dans la durée. Ça dure, on appelle ça, ce n'est plus le temps avec les secondes. C'est le temps, justement en latin, il y a tempus en latin pour nous, et aevum pour ceux qui sont en dehors de leur corps. Aevum, c'est-à-dire c'est la durée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la philosophie et qui ont étudié Bergson, vous voyez, le temps et la durée. Il y en a quelques-uns qui ont. Eh bien, il se trompe complètement, parce que lui, il met la durée et le temps au niveau des hommes, justement, dans sa phénoménologie. En réalité, la durée, c'est au niveau des personnes qui sont décorporées. Dans la décorporation, c'est-à-dire on a quitté son corps, oui, alors on rentre dans la durée, c'est-à-dire justement, ça dure. La durée de leur purification, elle correspond précisément à ce que nous vivons comme temps. Est-ce que tout le monde passe par le purgatoire? Ah oui, donc le purgatoire dure jusqu'à une certaine date. Et on peut, les saints qui sont par exemple Marthe était capable de voir, Marthe Robin était parfaitement capable de dire, ça y est, elle vient de sortir du purgatoire. Votre maman vient de sortir du purgatoire, elle y est restée 18 ans.
La même au purgatoire.
Non, on ne vit pas la durée de la même manière au purgatoire. Est-ce que la notion de durée est pareille sur la terre et au purgatoire? Non, la notion de durée n'est pas la même sur notre terre et au purgatoire. Parce que c'est une durée, ce qui fait la durée, c'est l'intensité, c'est une durée. Oh, je pourrais vous donner des exemples, mais ça, je ne voudrais pas vous donner des cauchemars, c'est ça. Je préfère pas vous donner des cauchemars, il y a une histoire, je vais vous raconter une histoire vraie, parce que je pourrais vous raconter comme ça au moins une centaine. Alors, quand il y a une centaine par cœur, pour les enfants du catéchisme, c'est merveilleux. Je suis l'histoire du purgatoire. Un jour, il y avait un prêtre avait dit à son collègue prêtre, ils étaient dans un monastère, dès que l'un de nous deux va mourir, il s'est entendu, vite, tu dis vite une messe pour me délivrer du purgatoire. Alors, ils ont fait ce petit accord, et en échange de quoi, on viendra celui qui a été délivré par l'autre, lui viendra le remercier, lui signifiera. Alors, donc, en voilà un qui meurt, l'autre l'apprend une demi-heure après, vite, il met ses ornements sacerdotaux, il va à l'hôtel, il dit la messe avec une ferveur extraordinaire. Et à la fin de la messe, l'autre lui apparaît, en disant ah, merci de m'avoir délivré, etc. Mais pourquoi est-ce que tu as mis plus de 10 ans à dire ta messe? Et donc là, mais pas 10 ans, je viens de le faire, dit, mais non. Bon, vous voyez, donc la durée est différente, puisque du coup, effectivement, le temps est le même, mais la durée est différente. Vous voyez, il est resté 2 heures, je dirais, au purgatoire. Mais la durée est vécue de manière tellement différente qu'on a l'impression, parce que, vous voyez, nos actes libres sur la terre, hein, on en pose quelquefois, les hommes qui posent des actes libres, en philosophie on le voit, souvent, la plupart des hommes posent 5, 7 actes libres dans une vie. Parce qu'au purgatoire, chaque instant est un acte libre. Je ne sais pas si vous voyez, le ramassage de la durée. Hein? Un acte libre, c'est quand tu fais quelque chose avec pleine authenticité, pleine liberté, pleine lucidité, pleine finalité. Alors, attends. Ah, c'est l'Église qui l'affirme. Pardon ? Comment est-ce que je peux affirmer que le purgatoire est vécu dans une durée différente que la durée de la terre? Ben c'est l'Église qui l'affirme, l'enseignement de l'Église. Saint Thomas, par exemple, Saint Augustin, Saint Thomas, tous les... Et puis aussi, j'allais dire, je sais pas, j'avais entendu parler, mais vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais Thérèse, je crois, elle est passée ça rapidement. Thérèse de Lisieux. Il me semble qu'elle avait... où est-ce que j'ai lu ça? Je ne sais plus. Et elle en parle, et elle dit qu'elle aurait préféré rester 10 ans encore sur Terre, dans les pires tortures jour et nuit, plutôt de faire cette demi-heure, où pourtant, elle avait seulement frôlé. Pardon? Ah non. Le purgatoire, c'est dans l'Écriture, hein? Attention. La notion de durée, mais c'est une conséquence directe, c'est dans l'Écriture aussi, le riche et le pauvre Lazare. C'est que ce qui se passe au-delà, tu es, j'allais dire, ton esprit, ta spiritualité est complètement éveillée. Complètement et perpétuellement. Tandis que actuellement, tu dors pendant 8 heures, tu manges, tu penses à rien, tu rêves, tu penses à rien. C'est-à-dire, ton esprit, ta liberté est éveillée. Le nombre de fois où, en montant une marche d'escalier, tu le fais librement, compte. Tu verras. Tandis qu'au purgatoire, aucun mouvement sans que ce soit libre. Donc tu vois, ce qui fait la durée, c'est la liberté. Donc le vécu, si tu veux, dans le temps. Quand je m'engage dans le temps. C'est ça, la durée. Je dure. Je vis un acte, une union d'amour extrêmement forte. Avec quelqu'un que j'aime. Et puis après, on se quitte, on s'arrache. Combien de temps ça a duré? 30 secondes ou 8 heures? Je ne sais pas. Tiens, j'espère que vous avez expérimenté ça. Si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous. Et la durée est d'autant plus forte que l'amour est plus fort. Vous voyez, à ce moment-là, on est investi, présent, donné, engagé. À ce moment-là, ça, la durée nous fait, d'une certaine manière, échapper au temps. Vous voyez ça? Au purgatoire, on est complètement échappé, j'allais dire, à la contingence du temps, et on dure dans la purification. Par l'amour, c'est l'amour qui nous purifie. Hein. Bien sûr, au purgatoire. Au purgatoire, c'est l'amour. C'est extraordinaire, cette histoire de l'amour qui nous purifie au purgatoire, c'est évident. Très douloureux, rien de plus douloureux que l'amour. L'amour, c'est comme un cautère délicieux, comme dit Saint Jean de la Croix. J'espère qu'on pourra regarder Saint Jean de la Croix quand on sera en Espagne. Il faudra absolument que vous m'obligiez à vous expliquer ce que dit Saint Jean de la Croix. Il faut absolument que vous m'obligiez à ça, si on a le temps. Vive flamme d'amour, cautère délicieux. Flamme de l'amour extraordinaire. Alors donc, autre question. C'était quoi? Est-ce qu'on peut demander l'indulgence plénière pour une personne bien précise, dans le purgatoire? On ne peut pas demander l'indulgence plénière pour une personne qui vit sur la terre, qui est encore la seule personne vivante encore, c'est nous. Et au purgatoire, je peux la demander en effet pour une personne particulière. Et alors attention, à ce moment-là, il faut avoir vraiment accompli les cinq plus l'acte de l'indulgence de la manière vraiment parfaite. Parfaite, parce que, tu comprends, il faut que ce soit parfait. Ça, ric-rac. Ça, il faut respecter la matière. Hein. Dès qu'il s'agit d'un sacrement, s'il n'y a pas la matière, ça ne marche pas. C'est une question d'efficacité de la grâce. La grâce est efficace. Le sacrement, c'est un signe efficace. Vous voyez, catéchisme aussi, là encore, définition. Qu'est-ce qu'un sacrement? Le sacrement est un signe efficace par lequel Dieu opère efficacement, indépendamment de la foi et par sa puissance divine. Vous vous rappelez, ceux qui ont fait le catéchisme, cette définition par cœur. C'est un signe efficace, tous les sacrements, et l'indulgence aussi. Mais il faut que le signe, ce soit ce signe-là, il faut que la matière soit respectée. Si je prends du riz, par exemple, j'ai beau être le pape, j'ai beau avoir croire être mal formé, je vais dire, en tant que pape, et penser que le riz, si je suis en Chine, j'ai pas de pain, hein, je vais dire ceci, et mon corps, pas de transubstantiation, il n'y a pas la matière du sacrement. Donc il faut respecter parfaitement les conditions de l'indulgence, et puis, bien sûr, notamment la cinquième condition où il faut faire justement la renonciation absolue à toute attache au péché, même le plus faible qui soit. Pendant quelques secondes. Alors, je le fais quand même. Et je le confie à Sainte Vierge et elle délivre instantanément l'un du purgatoire, ça c'est certain. Parce qu'elle donne à ce moment-là en proportion. Mais tu délivres l'un du purgatoire, ça c'est sûr. Une personne précise, c'est sûr aussi, si tu fais. Bien. Voilà, une autre manière aussi, vous donnez un prêtre qui va à Rome, vous lui demandez de dire une messe sur l'autel de Saint Grégoire à Rome, indulgence plénière automatique, sans aucune des cinq conditions. Voilà, vous demandez un trentin aussi, un trentin grégorien, vous envoyez un chèque de 2000 francs au Père Daniel Ange, hein, qui vous dit une messe pour votre arrière-grand-mère. Qui a eu un furon, qui est du coup pernicieux, il doit y avoir. Voilà, alors elle dira pendant 30 jours de suite la messe pour votre arrière-grand-mère avec son furon, et le 30e jour, elle sera délivrée.
Ça marche, mais c'est la plus.
Bon, autre question.